entre vous et nous.
L'émission pour bien vivre au quotidien.
On s'intéresse à l'électricité avec Joël Vocade, responsable marketing pour Genedis. Alors, il semblerait que les distributeurs ont baissé leurs tarifs, info, intox. Qu'est-ce qu'il en est, Joël ?
Ah non, info, pas intox alors. Non, info. Donc on a une obligation légale de publier les tarifs au 31 août de chaque année. Le 31 étant dimanche, on les a publiés aujourd'hui.
Donc alors, c'est tout frais.
Oui, alors les sites internet étaient plus ou moins à jour déjà à partir de vendredi, samedi. Donc globalement, il y a une baisse de 3 à 7% des tarifs d'électricité en Valais, en Suisse romande, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et cette baisse, elle est due à plusieurs facteurs. Elle est due notamment à la stratégie d'achat des distributeurs. Elle est due également à un ralentissement de l'activité économique en Europe et à une diminution de la demande. On revient en gros aux tarifs avant la crise.
D'accord. Et moi, c'est assez surprenant. D'habitude, on va vous augmenter. Là, on a de la peine à y croire.
Ouais, après, on prend pas le tambour et la trompette pour annoncer ça, parce que c'est, je dirais que faut rester toujours prudent. Mais c'est vrai que ça fait 3 ans que les tarifs ont plutôt tendance à stabiliser ou baisser. On est à une moyenne, si on prend un appartement ou un ménage d'une consommation de 4500 kWh par année, environ 1000 francs par année, on a une moyenne de 25,77 centimes le kWh pour Genedis. Après, au niveau des distributeurs valaisans, on se tient dans une fourchette de 3 à 5 % par
rapport à ça. Ouais, donc il n'y a pas de grosse disparité. Non. En fait, si on parle d'électricité, une facture d'électricité, c'est composé de quoi ?
Ça, c'est une bonne question.
Oui, parce que on regarde puis on se dit, est-ce que je vais vraiment avoir le courage de décortiquer ?
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on avait un tarif et puis on ne savait pas trop ce qui se passait derrière. Et puis là, depuis quelques années, on a plusieurs composants dans une facture d'électricité. On a le prix de l'énergie en premier, donc le kilowattheure à proprement dit. Ensuite, on a les coûts du réseau, ce qui nous permet d'acheminer le kilowattheure vers les clients, que ça soit au niveau haute tension, basse tension. On a les redevances et services système, c'est toute une série de taxes. On a la taxe RPC, c'est le soutien aux énergies renouvelables. Si vous mettez une installation solaire sur votre toit, vous allez avoir une contribution de la Confédération pour cette énergie-là.
Pour installer les panneaux.
Exactement. Ça vient du fonds des RPC, entre autres. Ensuite, on aura le PCP, ça c'est la taxe. J'aime pas le mot de taxe, mais on est obligé de le dire comme ça. Pour l'utilisation des territoires des communes. Ensuite, on a une...
Hein?
Alors, c'est une prestation qui est due aux collectivités publiques. C'est un montant qui est fixé par les communes pour l'utilisation de terrains publics pour les installations électriques, ainsi que pour des projets liés à l'énergie.
D'accord.
Voilà. Donc, quand on met des lignes moyenne tension, haute tension sur un territoire, eh ben, il y a derrière une taxe qui est reversée aux communes.
Mais souvent, ça passe pas dessus.
Alors, dessus ou dessous, hein, c'est le terrain qui fait foi.
D'accord.
Et puis ensuite, on a cette fameuse taxe qui avait été mise en vigueur en 2004 pour la réserve. C'était vu, il y avait ces risques de pénurie, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Tout à fait.
En 2024, il y a une taxe qui a été mise en place par la Confédération pour renforcer la sécurité d'approvisionnement. On a le service système, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est ce qui fait qu'on garantit la fiabilité du réseau et surtout le fait que le réseau il est très stable. Pour éviter que, en gros, si je mets en route ma machine à laver, mon voisin, lui, il ne peut plus en mettre en route la sienne, peut-être.
C'est peut-être parce qu'il y a eu peut-être des soucis à certaines périodes où, en fait, on cuisine tous plus ou moins dans les mêmes tranches horaires et puis ça peut influer justement sur...
Non, alors, heureusement, les réseaux, on dimensionne, enfin, les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux, on dimensionne notre réseau pour éviter ce genre de problème.
Okay.
Mais derrière, il y a d'autres variations au niveau de la haute tension, moyenne tension qu'il faut régler aussi et tout ça, c'est géré par SwissGrid. Et puis cette année, une nouvelle composante qui est arrivée, c'est le tarif de mesure. Donc on va encore plus loin dans la transparence, parce que à l'époque, ce tarif de mesure ou tarif de comptage, il était compris dans l'acheminement. Là, on l'a sorti de l'acheminement, ce qui fait que on va avoir une composante de tarif qui, elle, gérera tous les éléments qui sont liés à la transmission des données, au comptage, etc. Donc là, on arrive en tout cas dans un contexte où tout est transparent et tout est expliqué et clarifié.
Tout est transparent, expliqué, mais après, le commun des mortels ne comprend peut-être pas forcément tout.
Alors, c'est pour ça que les distributeurs sont à disposition et qu'il faut nous appeler. On est là à votre service pour répondre à vos questions.
Top. Tout à l'heure, vous parliez justement de la contribution de la Confédération pour des panneaux solaires ou comme ça. Est-ce que ça vaut encore la peine en 2025 de mettre des panneaux solaires ?
Bien sûr que ça vaut la peine. Alors peut-être juste avant de parler de l'installation solaire, on parle aussi on appelle ça un changement de paradigme au niveau de la gestion des réseaux par rapport à la production solaire. À l'époque, il y avait pas de production solaire, donc on n'avait pas des producteurs qui injectaient de la surproduction à un moment donné de la journée. Mmh. C'est plus le cas maintenant. Il y a énormément de producteurs solaires qui, à un moment T, ne consomment pas assez, donc ils injectent sur le réseau.
Et nous,
notamment en été, exactement. Et nous, les réseaux, ben, on doit prévoir une infrastructure qui permet d'assimiler cette surproduction. Et là aussi, il y a un changement qui intervient à partir de 2026, c'est que la réinjection solaire, elle sera uniformisée au niveau suisse. Elle sera à 6 centimes au minimum, il y a un prix plancher, mais elle sera mensualisée. C'est-à-dire que les producteurs solaires, tous les mois, ils auront alors, ce sera peut-être des décomptes trimestriels, mais n'empêche que sur le décompte trimestriel, on aura le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars,
avec
la visibilité de ce que j'ai produit et à quel tarif mon énergie a été reprise. Donc, oui, le solaire est toujours intéressant parce qu'on peut être payé si on injecte, si on surproduit, mais surtout si on autoconsomme. Je rappelle qu'une installation solaire où on autoconsomme notre production, ces 25,77 centimes que j'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas facturés.
Ouais, donc ça vaut
donc
la peine.
Donc ça vaut vraiment la peine.
Ensuite, mais si on pouvait stocker cette énergie, ça serait trop bien.
Oui, mon Dieu, ça va vite. Vous pourriez presque travailler chez nous. Effectivement, il y a le stockage. Alors, je répète, je dirais il y a 3-4 ans en arrière, on était à une durée de 15 ans d'amortissement de l'installation solaire. Là, avec la baisse des prix de la réinjection, on passe à 20 ans à peu près, mais ça reste super intéressant. Ensuite, c'est défiscalisable. On peut défiscaliser complètement une installation de 25 000 francs, par exemple. Et puis,
mais qu'une seule fois.
Ah, bien sûr, qu'une seule fois. Mais après, l'autoconsommation, c'est tout le temps. Et puis, bien sûr, ça fait une plus-value pour la maison.
Oui.
Là, il faut être clair. Et on fait aussi un geste pour l'environnement, quelque part, parce que bah, le soleil, ça reste une énergie forcément très renouvelable.
Mais j'avais entendu dire aussi qu'en cas de rénovation ou de construction actuellement, on a l'obligation de mettre du solaire.
Exactement. Exactement, donc il y a une petite part où on est obligé de mettre du solaire, ça fait partie de la loi qui a été fixée, où non seulement par le biais de la rénovation des bâtiments, mais également de favoriser ces producteurs, on dira. Après, vous parliez des batteries. Alors, aujourd'hui, le meilleur moyen de stockage qui existe, c'est les barrages. Donc, on stocke le produit, si on veut bien, mais il y a des batteries aujourd'hui qui, je dirais, il y a des systèmes de batteries qui deviennent très, très efficaces et qui permettent de stocker cette surproduction. Donc je surproduis,
je stocke
et j'utilise quand j'ai besoin, donc je ne vais plus prendre sur le réseau.
Ouais, mais
donc,
ça coûte une blinde, ces batteries.
Non, alors écologiquement... ça, les prix baissent. Je dois chaque fois contre-argumenter. Hein. Non, les prix ont bien baissé. On était à l'époque à 1000 francs le kilowattheure à peu près. C'était des installations grosses comme des congélateurs.
Ah ouais.
Et puis oui. Et puis maintenant, on est autour des 600-700 francs le kilowattheure. Et c'est des installations qui sont comme une caisse à vendange à peu près. Donc il y a tout qui avance. Il y a aussi des voitures qui permettent de stocker l'énergie, hein, etc. Donc après, moi, j'aime à dire que le kilowattheure le moins cher, c'est celui qui n'est pas consommé. Donc, on peut mettre des panneaux solaires, on peut avoir une maison qui sera hyper efficace au niveau énergétique, on peut mettre une batterie, on peut acheter une voiture électrique, on peut tout faire. Mais on peut aussi faire quelques efforts à la maison pour consommer différemment ou pas du tout.
Voilà, il faut que la maison, ça ne soit pas Versailles, allumée tout le temps partout.
Alors après, les lumières, ce n'est pas forcément le plus gros consommateur de la maison. Mais malgré tout, on peut changer de l'incandescence par du LED, on peut réfléchir à l'isolation, on peut réfléchir au système de chauffage. On a encore des maisons qui ont des systèmes de chauffage en direct, pas des pompes à chaleur. Je rappelle que pour une pompe à chaleur, il y a un coefficient. Si elle me consomme 1 kWh sur le réseau, elle va me donner entre 2 et 3 kWh de chauffage. Voilà, il y a plein d'astuces à faire aussi. Tout est défiscalisable. Et puis, il y a certains distributeurs aussi qui ont une tarification heure creuse, heure pleine. Heure creuse, la journée de 6h du matin à 22h. Non, c'est l'inverse.
C'est la
heure
vie,
pleine de 6h le matin à 22h et heure creuse de 22h à 6h, où les tarifs sont un tiers meilleur marché. Voilà, on peut agir. Concrètement, je pense qu'il y a eu un gros changement ces dernières années parce que non seulement les factures se sont clarifiées, les consommateurs peuvent devenir producteurs. Et on peut agir sur la consommation.
Donc on peut économiser sur notre facture d'électricité.
On peut clairement économiser sur notre facture d'électricité. Je vous donne un exemple concret que j'ai vécu. J'ai changé ma pompe à chaleur après 17 ans. Elle me consomme pratiquement un tiers d'électricité en moins. Les systèmes aussi ont évolué. Ensuite, les distributeurs sont à disposition pour répondre aux questions, comme j'ai dit tout à l'heure, non seulement sur les tarifs, mais aussi pour, par exemple, des audits énergétiques. J'ai une maison qui a une vingtaine d'années, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux entreprendre. Ben, à ce moment-là, appelez un des distributeurs, et puis il saura vous conseiller sur les différentes mesures que vous pouvez concrètement mettre en place pour baisser votre facture d'électricité.
Puis voir dans la globalité.
Toujours voir dans la globalité, puis essayer aussi de penser à la génération qui va arriver derrière, et puis que... essayer de faire du mieux qu'on peut.
Bon, en tout cas, on vous a bien entendu, Joël Vocat.
J'espère.
Donc, on rappelle que vous êtes responsable marketing auprès de Genedis. Ben, belle suite de journée à tous les deux. À bientôt.
Merci, à bientôt.